BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel.
Allez, on est de retour pour la deuxième partie de quoi je me mêle, épisode nostalgique. J'adore cette pastille avec notre ami Christophe Joly. Salut Christophe.
Salut.
Christophe, notre conteur, notre historien, notre mémoire de la tech, celui qui se plonce dans les archives. Bah ouais. Attends, je fais les choses bien. Moi, c'est la première
merci,
fois
Anthony,
qu'on est ensemble.
Ça me fait plaisir.
Voilà, donc je t'accueille comme il se doit avec tous les honneurs dus. Non, mais c'est vrai que c'est. Alors je disais, j'adore ce rendez-vous parce qu'effectivement, l'idée, c'est de se replonger dans les archives de la tech et aussi d'éclairer le présent à la lumière du passé de ces technologies. Tu nous as fait des épisodes sur l'histoire de l'iPad, l'histoire du QR code, les smartphones Galaxy, le robot Aibo. Tout ça est à retrouver évidemment en podcast et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et aujourd'hui, on va parler d'un objet qui a changé nos vies, qui a transformé nos salons déjà,
oui,
qui nous a fait
salons,
gagner
ouais.
de la place. C'est l'arrivée des télés, des écrans plats et particulièrement des écrans plasma, parce que les plus jeunes qui nous écoutent n'ont peut-être pas connu cette époque où on avait des télés cathodiques.
Et des cubes.
Des cubes,
des
exactement.
Des bons gros cubes.
Fallait un meuble, quoi. Ouais, c'était vraiment la télé, fallait la place pour l'installer.
Avec parfois le magnétoscope intégré dans l'écran.
Mais oui.
Dans l'écran, mais dans l'ensemble des combis.
Évidemment. Alors certains en ont peut-être gardé, notamment les rétro gamers, parce que c'est toujours sympa de jouer sur une télé cathodique avec ces vieilles consoles. Mais c'est vrai que, alors on est à la fin des années 90, et là
97,
il y a 97. Remets-nous un petit peu dans le contexte de l'époque et de cette révolution qui est arrivée.
Alors je me suis penché sur le premier écran plat. C'est la question que je me suis posée. Et le premier semble être un écran plasma. Donc en 97, présenté par Philips. Il faut savoir que Pioneer a présenté son écran également. Un plasma, on en parle beaucoup moins, c'est beaucoup moins documenté, mais on est en août 96, au CeBIT d'Hanovre, présentation, au CES 97.
Ça n'existe plus, le CeBIT d'Hanovre.
Comment ?
Ça n'existe plus, le
CeBIT d'Hanovre. Non, ça n'existe plus. Non, c'est terminé, ça fait aussi partie. On parlera peut-être des salons, d'ailleurs, qui ont disparu. Il y en a quelques-uns. On est en 98 quand Philips lance ce premier écran plasma, dont le nom, je te le donnerai tout à l'heure, mais ça dit les noms des télévisions est toujours un peu étrange.
Oui, on en parlait dans l'épisode juste avant, voilà. c'est toujours nébuleux.
Donc en 97, Amazon n'a que 2 ans, c'est un bébé entre guillemets, c'est le lancement de la première version de la norme USB en 96. Le Wi-Fi n'existe pas, il est lancé en 97.
Ouais.
Toi compte, le Wi-Fi. On est le premier iMac, donc l'iMac de la renaissance d'Apple, on va dire. Le Bluetooth arrive en 98 et Google n'existe pas encore.
Oh, voilà. Il y a eu un monde avant Google.
Un petit flashback. Il y a eu un monde avant Google.
Compter, c'est comme avant Jésus-Christ, il faudrait compter le monde avant Google.
Voilà, c'est ça. À l'époque, donc on l'a dit, ne se vendent quasi que des tubes cathodiques, même que des tubes cathodiques, à hauteur de 11 milliards de francs, parce qu'on était en francs aussi.
Ben oui.
On n'était pas encore à l'euro. Parmi les marques, moi je m'en rappelle très bien, il y avait Sony avec les Trinitron, qui était un peu la marque référente. On avait Philips, Thomson, Grundig, Toshiba, Panasonic. Et on avait déjà un effet mondial. En 98, rappelle-toi, le mondial de foot est en France.
Qui ne se souvient pas.
Ouais. Et ça avait boosté les ventes dans des proportions incroyables, puisque 40% d'augmentation de ventes en avril-mai 98 versus 97.
Et alors attends, là, à ce moment-là, la première télé, elle a été présentée
Présentée, elle est lancée en 98, elle est sortie.
Mais tu as trois plaies de tendu qui l'ont, quoi.
Oui, même peut-être un peu moins, parce que tu vas voir les prix tout à l'heure, c'était des prix juste astronomiques. Donc là, on est encore dans le cathodique, il faut attendre 2006 pour qu'ils se vendent autant d'écrans plats que de télé cathodique.
Ah ouais.
Donc le delta est quand même assez long, ça mettra vraiment du temps à s'imposer, inhérent au prix évidemment, sachant que le plasma se fera très rapidement doubler par le LCD.
Ah oui, c'est ça.
C'était moins cher. Je vais donner quelques chiffres. En 2003, 120 000 télés à écran LCD sont vendus contre 48 000 téléviseurs à écran plasma. Donc dès 2003, le LCD double plasma. Et il s'est vendu encore 3,6 millions de téléviseurs à tube cathodique.
Parce que comme souvent, en fait, dans la technologie, tu as une espèce de guerre de standards qui s'est mise en marche.
Voilà,
comme,
il y a une autre guerre.
Blu-ray, HD, DVD, Xbox versus PlayStation.
Et VHS et puis
VHS et Betamax. Ouais, et souvent, il y en a un qui gagne. Alors, pas sur les consoles, il y a toujours...
Les deux
existent. Mais là, pour le coup, c'est vrai que le plasma, qui avait ses qualités, qui avait ses fans...
qui a duré assez longtemps, hein, parce que la dernière production s'est arrêtée en 2014. Donc bon, on peut considérer que ça a perduré parce qu'il avait des atouts. Hein. Pour reprendre un chiffre, en 2004, il s'est vendu 400 000 LCD contre 95 000 plasma. Donc c'était un peu le début de la décrue du plasma.
Alors si technologiquement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différences entre ces deux standards ? C'était quoi le plasma et c'est quoi le LCD ?
Alors moi le LCD, je ne vais pas pouvoir te dire parce que je me suis vraiment intéressé
sur le plasma. En tout cas.
Plasma. Le plasma, c'est assez simple, c'est une vieille techno qui remonte aux années 60, qui a été développée à ce moment-là. Ce sont deux gaz assez rares, c'est de l'argon et du xénon, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, de l'argon et du xénon. 90% d'argon, 10% de xénon. Et tu électrifies ce mélange gazeux pour produire de la lumière.
C'est des tubes d'éclairage, en fait.
Voilà, ce sont des tubes d'éclairage. Le LCD, je n'ai pas regardé parce que mon sujet, c'était que le plasma.
Non, non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, alors je regardais un petit peu justement sur cette guéguerre, parce que tu avais effectivement les détracteurs des deux technologies et les fans. Et le plasma avait des avantages, en tout cas, qui étaient assez évidents en termes de qualité.
On va en parler.
On va en parler. Vas-y, vas-y, je te laisse.
Alors, selon Philips, quand il lance cet écran plasma, c'est le premier téléviseur au monde qui pouvait être accroché au mur comme un tableau. Alors, ça fait penser évidemment à Samsung et au Frame,
bien sûr,
parce que dont c'est l'idée. Il faut quand même savoir qu'il fait 10 cm d'épaisseur. Donc, il est plat, certes, mais il est quand même assez épais. La définition, on a 852 pixels sur 480. Donc, on a quand même très, très loin de la définition qu'on a aujourd'hui. Mais bon, il faut se rappeler qu'on est quand même en 98. L'un de ses atouts, c'est l'angle de vision de 160 degrés. C'est-à-dire qu'à peu près, à quel que soit l'endroit où tu te trouves face à l'écran, tu vois bien l'image. À l'inverse du LCD, qui ne permettait pas toujours de voir. Tu as souvent des écrans brillants, par exemple, qui empêchent de voir de façon très nette. Donc ça, c'était l'un de ses atouts. Il y avait quatre haut-parleurs pour une puissance de 60 watts, avec un son Dolby Pro logique, sachant que le son des télés, ce n'est pas leur point fort en général. Et là, ils avaient décidé de capitaliser là-dessus, d'en faire un trait de force. Il y avait un procédé qui s'appelle le Digital Natural Motion, qui est un traitement numérique qui permet d'avoir une image plus fluide, notamment quand il y a du mouvement dans les films d'action, dans les choses comme ça. Et un procédé qui s'appelle le Pixel Plus, qui permet de dédoubler le nombre de pixels par ligne. Donc, il y a plus de lignes et deux fois plus de pixels par ligne pour un rendu meilleur, évidemment. Il y avait quatre prises Péritel.
Si t'as connu, ah, mais bien, évidemment, évidemment.
Donc, évidemment, ça a disparu depuis que ce n'est plus obligatoire. Ouais. Mais pendant de longues années, les fabricants étaient obligés d'installer une prise Péritel sur leurs appareils,
ah oui,
les télévisions.
Important pour les consoles aussi.
Et je crois que c'est terminé depuis 2003. Ouais. Et désormais, ça n'est plus obligatoire. Je vais donner les prix, parce que là, on est au cœur du sujet.
Ouais.
On est à 80 000 francs pour le modèle de 42 pouces. J'ai converti en euros aujourd'hui sur le site de l'INSEE, ouais, on est à 13 000 euros.
13 000 euros, et sachant que c'était hors inflation, c'est-à-dire qu'à l'époque, 80 000 francs, c'était beaucoup plus.
Mais tu vas voir, je vais te donner un autre chiffre qui va te donner une idée. Et le 50 pouces, c'est à 120 000 francs, équivalent aujourd'hui.
Oh là 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 là.
Pour avoir une idée, le prix du mètre carré à Paris en 97 était de 15 000 francs.
Donc tu pouvais t'acheter
pour le prix d'une télé.
C'est ça, ouais. un petit appart pour le prix d'une télé.
Voilà. Donc à choisir. Je crois que je préférais l'appart à l'époque. Donc, effectivement, il a fallu un petit peu de temps pour ça se popularise, on va dire, pour ça rentre dans les foyers.
C'est rigolo parce que tu avais... Je ne sais pas si tu as vu la série The Office ou pas.
Non.
La série américaine The Office, donc avec Steve Carell. Et il y a un moment, il y a un épisode où il dit... Alors, ça doit se passer au début des années 2000, peut-être un peu plus tard. Et il dit... Ah, j'ai enfin craqué, je me suis acheté un écran plat. Et là, tu vois, sur le plan, il a un tout petit écran plat, parce que c'est un écran plasma. Il a un tout petit écran plasma, parce que c'est tout ce qu'il a pu se payer, finalement, tellement les prix étaient élevés, en fait.
Ouais. Et d'ailleurs, les prix ont quand même baissé assez rapidement, parce que le plasma est passé de 15 000 euros à 4 000 euros entre 2002 et 2004.
Ouais.
Donc 15 000, 4 000, et même 2 500 euros avec des marques de distributeurs. Je te rappelle, Carrefour, c'est ses propres marques. L'écran LCD, parce que c'était quand même le concurrent, un 32 pouces coûtait 3 000 euros en 2004, 1 600 en 2005 et 1 200 en 2006. Donc les prix ont dégringolé, mais le Delta était toujours en défaveur du plasma, ce qui a probablement participé de sa chute, on va dire, ou de son arrêt. Sachant qu'il y avait les partisans du plasma, il y avait vraiment deux chapelles. Hein. Tu avais les plasmaphiles et les LCD-files, et puis ensuite, il y a eu d'autres technos qui se sont imposés. Alors, tu me posais la question des atouts du plasma. Donc, il permettait de proposer des écrans de grande taille. Là où le LCD ne permettait pas d'avoir des dalles plus importantes, même s'il a rattrapé son retard. Le spectre des couleurs était très large. Il avait de bons contrastes, une absence de rémanence et un bon angle de vision, comme on le disait, à 160 degrés. En revanche, ils étaient lourds, parce que le produit Philips pesait 30 kg.
Ah oui.
Donc, fallait le mettre sur un mur porteur.
C'était
quoi.
Plat, mais lourd.
Ouais. Voilà, plat, mais lourd et épais, puisqu'on l'a dit.
Et quand même plat, mais pas si plat.
Et pas si plat. Non, si complètement plat, mais...
Plat, mais avec... Pas
flat, pas mince.
Oui,
quoi,
pas, voilà, exactement.
Alors que désormais, on y a des écrans qui sont proposés, qui sont présentés à 5 mm.
Bah maintenant, tu as des écrans sur les salons au CES. À chaque fois, tu sais, ils te font la comparaison avec une carte bancaire. Tu as la carte bancaire qui est juste à côté et tu vois l'écran qui s'incurne. Voilà.
Donc, ouais, on est dans des rapports vraiment très importants. Et donc, ils sont lourds, ils chauffent beaucoup. Il y a un problème, pas un problème, mais ils sont moins lumineux que n'est le LCD. Il y a le problème du burning pixel. Tu sais, c'est les images fixes. C'est-à-dire que tu as le logo d'une chaîne, par exemple. Eh bien, les pixels mouraient du fait qu'il n'y ait pas d'animation, en fait, qu'il ne bouge pas. C'est pour ça qu'il était déconseillé d'utiliser un ordi avec un écran plasma, parce que tu cramais ton écran, tu cramais les pixels.
Ça, c'était quand même un des éléments qui ont fait qu'ils ont perdu la bataille, parce qu'il y avait quand même cette réputation, effectivement, le burning pixel, le fait que la longévité moyenne était quand même moins importante
que
celle d'un LCD.
Ouais,
ça joue, hein, du point de vue du consommateur, évidemment, c'est des impôts.
Et autre défaut, on en parlait moins à l'époque, c'était la consommation électrique qui était plus élevée, mais... qui savait ce que consommait sa télé à l'époque.
Oui, c'est ça, on s'y intéressait beaucoup, beaucoup moins.
On s'intéressait beaucoup moins. Donc le LCD fera la différence par une meilleure luminosité, des couleurs magnifiques, une durée de vie plus longue, comme on l'a dit. Et in fine, le LCD est parvenu à s'aligner sur la qualité d'image, y compris sur des grands formats. Alors, on en a parlé, c'est l'occasion d'une guerre, souvent d'une guerre de brevets en matière de tech. Et en 2004, Fujitsu a attaqué Samsung en reprochant de violer les brevets du plasma. Alors, la guerre a été, c'est une blitzkrieg, hein, ça a duré 2 mois. Et à tel point quand même que le gouvernement japonais a interdit l'importation d'écrans Samsung au Japon. Donc, c'était vraiment presque une guerre diplomatique, ah oui. Parce qu'il y a eu des consultations d'ambassadeurs. In fine, ils ont trouvé un accord. Alors, la réponse de Samsung, c'était « On ne fait qu'utiliser des brevets très répandus, partout dans le monde, y compris aux États-Unis. » Donc, ce n'est pas la propriété de Samsung. Ils ont quand même trouvé un accord sur une durée de 5 ans qui permettait un partage des brevets. Comme ça, l'âge de guerre a été enterré. Ça n'a duré que 2 mois, mais on fera peut-être un sujet un jour sur cette guerre de brevets.
Absolument.
Parce qu'il y en a quand même qui sont assez homériques. Hein.
Et la fin du plasma, c'est quand alors?
Donc, c'est 2014.
2014, Fujitsu, ça s'arrête. Hein.
Voilà. Fujitsu, en 2008, a arrêté de les produire. Pioneer, Hitachi en 2009. 2012, François et Jérôme Colombin prédisaient déjà la fin du plasma. Ils avaient quand même ils avaient le nez creux. Panasonic a arrêté en 2013. LG, Samsung en 2014. Et depuis 2014, c'est terminé. Donc à la guerre du plasma LCD a succédé une autre guerre. C'est celle du LED, mini LED et de l'OLED.
LED.
Voilà. Donc ça. Là, c'est de nouveaux formats qui s'imposent. Sachant qu'aujourd'hui, Samsung domine largement le marché des écrans plats, parce qu'il n'y a plus que ça désormais, avec 30% de part de marché, et suivent TCL, chinois, LG et Hisense. Donc c'est vraiment la Corée d'un côté, la Chine d'un autre, avec une prime pour les Chinois au niveau des grands formats. Ouais. C'est là-dessus vraiment qu'ils essayent de prendre l'ascendant.
Ce qui est intéressant avec l'arrivée des premiers écrans plasma et LCD, enfin des premiers écrans plats, c'était aussi le côté marqueur social. Moi, je me souviens de ça. C'est-à-dire que quand tu allais chez quelqu'un qui avait un écran plat, c'était aussi un truc, waouh, il a un écran plat. C'était
un effet waouh.
Il y avait un effet waouh, exactement. Et ça, c'est un truc, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les écrans plats, ils se ressemblent plus ou moins tous.
Demain, ce sera le cas avec les écrans transparents.
Oui, c'est ça. Maintenant, c'est les. Ou alors incurvable, ou le truc qui rentre dans son.
Très, très fin.
C'est
voilà.
Ça, tout à fait. Donc, non, c'est absolument passionnant. Et on voit aussi l'évolution des prix. Moi, c'est un truc qui me fascine sur les télés. Et c'est là qu'on voit qu'un marché où il y a de la concurrence, c'est quand même assez formidable parce que les prix sont extrêmement élevés au début et au bout de quelques années, voire quelques mois.
À ton avis, combien coûte une télé en moyenne aujourd'hui?
À l'achat, je dirais entre 500, 700, je dirais.
Pas mal, pas mal. Ouais. On est à 521 euros ouais. Selon l'Institut GFK. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit souvent que la télé est morte. C'est l'objet télé, parce que les gens regardent sur les ordi, bah, pas tant que ça, parce que l'an dernier, il s'est vendu 3 600 000 téléviseurs, selon GFK. C'est autant que les premiers chiffres qu'on a donnés dans les années 98, en léger recul de 2%. Il va y avoir un petit effet euro,
ouais.
Là,
et JO peut-être.
Et JO, mais dans une moindre mesure, visiblement. Un modèle vendu sur 3 est en 4K, c'est du LCD aujourd'hui. La taille moyenne, c'est 47 pouces. On a gagné 1 pouce en un an. Donc peut-être qu'on va gagner encore un petit peu plus. Et pour finir, le frame de Samsung, qui est la télé qu'on accroche comme un tableau, il pèse 8 kilos. Versus 30 kilos pour le Philips. Et il fait 2,5 cm d'épaisseur versus 10 cm pour le Philips.
Dingue. Des télés toujours plus fines, toujours plus grandes et toujours plus spectaculaires.
Et là, j'ai vu au CES que c'est genre les écrans transparents.
Complètement.
Mais dont on parlait déjà il y a 10 ans.
Ça, c'est vrai. Mais ça y est, elles arrivent commercialement. On a eu les premiers modèles effectivement présentés au CES. Et bah, c'est passionnant tout ça. Merci beaucoup,
merci
Christophe. Merci pour ce Nostalgeek. Et puis, bah, on se retrouve la prochaine fois pour un autre objet à redécouvrir avec toi. Tu vas encore te plonger dans nos archives de la tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour De quoi je me mêle.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.